Bien le bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine, édition du 22 septembre 1917. 2017, désolé. C'est Hélène Bédard qui vous parle et avec moi en studio, j'ai Catherine Brunet.
Bonjour.
Et nous saluons évidemment Alexandra Blaison qui est absente ce vendredi, mais que nous espérons bien revoir vendredi prochain. Alors, les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, en ce qui me concerne, je vais continuer l'interview de Hélène Brulaire, bédéiste. Mm-hmm. Ensuite, je vais vous parler de coups de foudre chez les seniors, mais oui, ça existe, et les dépendances affectives. Nous verrons cela. Et vous, Catherine?
Moi, je vais entamer la lecture du Voir du mois de septembre. En première page de couverture, il y a Marc Séguin, donc on va peut-être parler un petit peu de Marc Séguin. On va parler du nouveau film de Luc Picard, Les Rois Mongols. On va aborder quelques chroniques, puis on va peut-être aller faire un peu un tour au niveau de la musique et de la beauté ludique en milieu des jeux vidéo. Voilà.
Oh, ça promet! Alors, à tout de suite.
J'ai très hâte de voir ce film de Luc Picard qui sort en salle le 22 septembre, donc je crois que c'est ce soir qui sort en salle. C'est un film qui s'appelle Les Rois Mongols et ça va être présenté en ouverture du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Ça a été présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec le 13 septembre. Donc il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui ont dit que c'était absolument fabuleux. C'est un article du magazine Voir qui est écrit par Nicolas Gendron. L'article est appelé « À la guerre comme à la guerre ». Après avoir conquis le public avec l'audition, puis visité l'univers de Fred Pellerin deux fois plutôt qu'une, Luc Picard est de retour derrière la caméra pour revisiter la crise d'octobre à la hauteur des enfants dans Les Rois Mongols. L'auteur-réalisateur insiste d'entrée de jeu pour spécifier que l'enfance ne rime surtout pas pour lui avec condescendance. L'idée, c'est de les faire exister tels qu'ils sont, parce que dans notre ère politically correct, les enfants à l'écran, on a tendance à les regarder de haut. Mais qui de mieux placé que ces jeunes acteurs pour savoir ce que c'est d'avoir 13, 14, 15 ans? Des flots, c'est toujours plus intelligent et sensible qu'on pense. Ici, les bouleversements familiaux se fondent au déchirement politique de l'automne 1970 et la prise d'otage devient, aux yeux de Manon, la très douée Milia Corbeil-Couvreau, remarquée dans Nelly, et son petit frère Mimi, Anthony Bouchard, très craquant, l'issue idéale pour éviter la famille d'accueil. Aidé par les cousins, les attachants Alexis Gay et Henri Picard, fils de Luc, ils partiront en cavale avec une vieille dame, Claire Coultier, lumineuse, qui n'avait rien demandé. Adapté du roman « Salut mon roi mongol » de Nicole Bélanger et scénarisé par l'auteur elle-même, le film navigue aisément entre le grave et l'attendrissant, entre la trame sociopolitique et le ressort comique. Oui, il y a un certain sens de l'humour, mais c'est une touche parmi d'autres, qui précise Picard. C'est un peu le même thème que dans l'audition. Comment rester intègre face à des promesses d'enfance quand la vie adulte force à tellement de compromis? Voir cette jeune Manon jurer à son frère qu'ils ne seront jamais séparés et se démener pour que ça n'arrive pas, c'est tout de suite venu me chercher. Travailler à partir d'un roman lui a aussi fourni d'autres clés. Avec les contes de Fred, Babine, Essimézac, je n'avais pas accès à la même intériorité qu'avec un roman. Là, je traînais toujours le livre annoté avec moi. Et c'est la pensée de Manon qu'on suit. C'est très beau, un peu du charmier. C'est pour ça qu'on l'a appelé du charme. S'il peut paraître périlleux de confier à quatre rôles centraux d'un film à des enfants de 5 à 15 ans, le cinéaste n'a pas pris la tâche à la légère. J'ai d'abord cherché à créer une gang. On a quand même vu 170 jeunes en audition. Et une fois qu'ils ont été choisis, je faisais des soupers avec eux pour développer leur chimie et je les ai fait écouter Stand By Me, dont le jeu des enfants est hallucinant. Ensuite, il s'agit de vivre les situations les unes après les autres, sans tout théoriser. Tu t'ennuies de ta mère, t'as faim, t'es de mauvaise humeur, etc. Il faut miser sur la simplicité et sans être paternaliste. Parlant de paternité, craignait-il de travailler avec son fiston? Après ces deux auditions, les filles du casting étaient presque désolées de me dire que c'était le meilleur, comme ça me plaçait dans une drôle de position. Mais après, ça s'est fait tout seul. Il s'agissait de ne pas abuser ni l'un ni l'autre de notre lien privilégié. Sur le plateau, il m'appelait Luc, ce qu'il ne fait jamais. Et du retour à la maison, c'était papa. Au moment de la crise d'octobre, Luc Picard n'avait que 9 ans. Je me souviens qu'on nous disait qu'il y avait des méchants. Je n'avais pas de recul et j'avais l'impression qu'on était en danger. Comme dans cette scène du film où Denis demande à son grand frère Martin « Est-ce que le FLQ peut enlever du monde comme nous autres ?» Autrement, il garde un excellent souvenir des ruelles, une part importante de la reconstitution de l'époque. L'action se déroule dans Hochelaga, et même si j'ai grandi dans la Chine, je connais bien ce monde parallèle. On vivait carrément dans les ruelles. C'était très communautaire, le paradis sur terre. L'interprète du film Octobre a-t-il eu une pensée émue pour son ami Pierre Falardeau en se replongeant ainsi dans notre passé? Ça m'arrive souvent. Ce fut le cas en tournant les scènes de l'armée. Je me suis demandé s'il aimerait le film. Sans doute Falardeau aurait-il rigolé que l'armée débarque à Montréal sous l'air de « Comme j'ai toujours envie d'aimer », le hit de Mark Hamilton. Je ne décide jamais trop d'avance quelle forme va prendre un film. La chanson m'est apparue le soir où je tournais « L'arrivée des soldats ». J'ignorais alors que c'était le gros succès de 1970. Les autres chansons québécoises ont suivi au montage, même si je savais que ça donnerait un côté pop au film. C'est ce qui me vient naturellement, un certain cinéma du milieu, à la fois intègre et accessible. Comme un mariage plus intime entre Les Cordes et E.T. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Voilà qui est aussi limpide qu'une promesse d'enfant.
Et Catherine, vous nous rappelez rapidement l'auteur et la source,
oui,
s'il vous plaît.
Bien sûr, c'était dans la revue Voir du mois de septembre 2017 et c'est un article écrit par Nicolas Gendron.
Merci. Eh bien moi, pour ma part, je vais poursuivre avec une entrevue, sur la BD Hélène Brûlère que j'avais débutée la semaine dernière. Voici donc la suite de sa BD « Je veux pas vieillir ». Est-ce que cet album est une thérapie pour mieux passer la cinquantaine? Lui demande-t-on. Et elle répond. Oui et non. Non, ça ne peut pas tenir le rôle d'une thérapie. Oui, d'avoir vidé les choses dans un dessin couché sur papier, c'est une façon d'en finir avec un sujet. Un album pourrait être un instrument de thérapie, mais pas une thérapie en soi. Ça aide à comprendre ce qu'on ressent, à le clarifier et du coup, forcément, à le traiter. Mais pas à se remettre en question ou à évoluer comme avec une thérapie. On demande souvent aux auteurs si leurs albums sont des exutoires. C'est vrai que c'est un espace où on est totalement honnête. On ne devrait pas être consensuel dans un album parce que ce n'est pas utile. Personne n'a envie de s'identifier avec quelqu'un qui a un vocabulaire et qui met du sucre partout. Est-ce à 49 ans que vous avez vraiment pensé qu'on est vieille et moche? Répond-elle. Non, je me trouve très bien. Et la note de l'intervieweuse, Hélène Brûlère, est très bien. Mais je me dois de rappeler que j'ai 49 ans pour me trouver bien. Je ne me trouvais pas bien pour une femme de 30 ans, et comme j'ai 30 ans à l'intérieur, il y a quand même toujours ce petit choc. Genre, « Oh putain, j'en ai pris! » Et puis, je me regarde et tout de suite, je me dis, « Eh bien, pour 49 ans, je suis pas mal. » Entre ces deux que vous décrivez, vous pensez que d'être 47 ans, on est dedans? Répond-elle, on est tout le temps dans l'entre-deux. Moi, je l'ai toujours été. Je ne me résoudrai jamais à ce que la vie devienne monotone et à accepter un état statique dans mon existence. J'attendrai toujours la lune. À partir de 47 ans, oui, on commence à être dans le déclin physiquement. Pourtant, je me préfère maintenant. Pourtant, j'ai pris du poids. Il y a des rides que j'aime bien, des expressions qui se sont précisées. C'est un autre passage de vie que je trouve passionnant. Pouvoir livrer mon expérience à mes enfants, être sereine par rapport à des sujets qui les angoissent, comme les premières ruptures, pouvoir leur dire que des choses qui soulagent. C'est fabuleux de pouvoir soulager un ado parce que on sait. Comment on accepte qu'on est en train de basculer dans un changement définitif? Il faut arrêter de pleurer sur ce qui n'est plus et commencer à se réjouir sur ce qui a été. À un moment donné, on se réjouit de ce qui est. La thérapie m'a beaucoup aidé à ce sujet. J'ai appris à être ici, maintenant, et vivre le présent. Finalement, c'est toujours le passé et le futur qui sont pénibles. Si on se dit « je m'arrête ici et maintenant », ben on arrête de regarder parce qu'on regarde ce qu'il y a autour. A-t-on l'impression que le plus dur à accepter, c'est le corps qui se transforme? Vous en faites une description quasi apocalyptique. J'aime bien mettre le doigt sur le cauchemar parce que ça le fait disparaître. J'appuie sur le détail, les bourrelets, et j'en fais un sujet. Donc, c'est forcément caricatural. Les bourrelets, c'est difficile. Ce que je supporte le moins, c'est de m'y habituer. J'ai arrêté de bouffer comme, et dit-elle, une grosse vache. Pas quand je me suis aperçu que j'avais des bourrelets, mais quand je me disais, j'ai 49 ans, j'ai quelques bourrelets et c'est normal. C'est là que je me suis dit que ça n'allait pas, parce qu'on ne peut pas avoir cela, des bourrelets. Et votre rapport avec les hommes? La sexualité à 50 ans est beaucoup plus épanouissante. On assume mieux son corps, quoi qu'il soit, et quel qu'il soit, et on s'autorise avec l'expérience à être naturel. Mais tout cela, c'est aussi un piège, car je me rends compte que je suis devenue intransigeante. Je me suis habituée à ma liberté. Quand j'avais 20 ans, je voulais faire plaisir, je voulais qu'on m'aime. Je ne disais pas à un mec qu'il avait été nullissime et qu'il n'avait pensé qu'à lui, au pieu. Au contraire, je lui disais qu'il avait été formidable. Aujourd'hui, je suis atroce, je le dis. Votre vision des hommes n'est d'ailleurs pas très tendre. Soit moche, soit vieux, beau. Rien d'autre comme alternative? Je ne suis pas tendre avec moi non plus. Comme intérieurement, j'ai 30 ans, c'est l'homme de 30 à 40 ans qui me plaît. Tout à coup, quand il y a un mec de mon âge qui vient me draguer, je me dis « Mais pour qui il se prend ce vieux? » Et puis je me dis « Mais il a ton âge. » Ah, c'est avec ça que je me suis assortie. Mais bon, je me suis agrippée à mon célibat, une chose que l'âge m'a aussi appelée dont je me suis convaincue. On a été formaté par une société hyper machiste. Et on est tenu par une légende sur l'amour, essentiel de notre vie. Si t'as pas de mec, t'es une merde. À 30 ans, j'étais devenue et convaincue que si je me trouvais pas un mec, il y avait quelque chose qui n'était pas terminé dans ma vie. Aujourd'hui, je me dis, allez, sois honnête, qu'est-ce qui me fait plaisir? Travailler, passer du temps avec mes enfants, avec mes potes. J'ai tout, je me marre bien, j'ai de la tendresse pour mes enfants, de l'affection, et de toute façon, il y a toujours un mec disponible quand on veut du sexe. Aujourd'hui, je n'irai pas dans une histoire si ce n'est pas le bon. J'attends celui qui est fait pour moi et ça se fera tout seul. Sinon, c'est que ça ne marche pas. Depuis, avez-vous changé d'avis sur les vieux? Bizarrement, c'est l'album qui a changé mon regard sur mes parents qui, eux, sont vieux. C'est très étrange. Tout à coup, je ne vois plus mes parents. Je vois les êtres humains qu'ils étaient et que je ne voyais pas. Ça a complètement changé mon regard et mon comportement. Je suis devenue plus tolérante. Je les vois comme des personnes qui ont droit à leurs défauts. D'ailleurs, j'ai mis ma mère dans l'album et ce que je dis d'elle lui est vraiment arrivé. Qu'est-ce qui vous définit le mieux? Elle répond, que tout peut se résoudre par l'humour. Alors évidemment, ça contient beaucoup de choses. J'ai pu arriver à cette phrase parce que j'ai pu enfin m'autoriser à pleurer tout ce que j'avais à pleurer. Quand on s'autorise à pleurer, ce qui nous empêche de rire disparaît avec les larmes. Et puis, rien n'est grave. Quand on a la chair qui se délite, elle perd de l'importance, ce n'est plus essentiel. Mon physique n'est plus ce qu'il était. Du coup, on dépose les armes et là, on est dans le vrai.
Que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage. et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. T'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder. Tes bas tombant sur tes chaussures et ton vieux peignoir mal fermé et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe! Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Ah, Charles Aznavour et sa chanson « Tu te laisses aller ».
Eh bien, merci Mathieu, toujours des chansons aussi judicieuses. Merci. J'aimerais rappeler le dernier texte que j'ai lu pour l'entrevue de Mme Hélène Brulaire vient du site Internet Les Boumeuses et c'est un texte écrit par Ariel Granat. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Catherine Brunet.
Je poursuis ma lecture du Voir et comme vous le savez probablement, le Voir offre toujours une panoplie de chroniques à certaines personnalités ou auteurs du milieu culturel québécois. Et donc, cette semaine, je vais commencer par vous lire la chronique de Émilie Dubreuil, qui a une chronique qui s'appelle « Sale temps pour sortir » et l'article de ce mois-ci est « Bienvenue au Festival du cinéma mental ». Ça, c'est léger. Ma mère avait un petit commerce dans lequel j'ai littéralement grandi. C'était avant l'époque des services de garde. L'autobus scolaire me déposait donc à la boutique après l'école et j'y faisais mes devoirs, assise sur un petit banc à côté de la caisse. Richard, le gérant, cachait une boîte de biscuits Oreo dans un des tiroirs du grand comptoir qui servait à emballer les cadeaux et je les dégustais en prenant un malin plaisir à écouter les clients bavarder entre eux ou avec ma mère et ses vendeuses. J'avais d'ailleurs toujours très hâte d'arriver au magasin. Sans doute avais-je, je compris, même à cet âge précoce, j'étais au primaire, qu'il se déroulait en ce lieu beaucoup plus que des transactions simplettes. Les habitués s'y arrêtaient en rentrant du bureau. On venait donner des nouvelles, discuter de la météo, de la politique, des derniers potins du coin. À certaines heures clés de la journée, la boutique de ma mère devenait, en fait, comme une petite place du village. Adulte, j'ai donc toujours voulu encourager les petits commerçants indépendants, convaincus de leur utilité sociale. Une source sans prétention de chaleur humaine dans nos cités anonymes. Ces petits commerçants, je leur suis fidèle. Ça doit bien faire 20 ans déjà, par exemple, que je fréquente la quincaillerie de M. Robert. Souvent, comme le faisaient les clients de ma mère, je passe le voir, j'achète un petit truc, mais j'y vais surtout pour le plaisir d'échanger avec lui. Surtout que M. Robert, sous ses dehors de quincaillier pragmatique, a toujours des histoires rocambolesques à me raconter. Il y a quelques années, j'étais arrivée affolée dans sa boutique. Un mulot s'était immiscé dans mon appartement et je voulais un piège. Il m'a dit qu'il était pressé, mais a pris le temps de me montrer comment l'installer. « Vous fermez tôt ce soir, Monsieur Robert? »« Oui, je dois me rendre à une conférence. »« Ah bon? Conférence sur quoi? »« Les extraterrestres. » Depuis, chaque fois que je vais acheter des clous, des vis ou autres bidules, je le fais parler de sa passion pour les extraterrestres. Il est convaincu que lorsqu'il était jeune, il a vu un vaisseau spatial survoler les champs de maïs de la ferme familiale. Depuis, il cherche à décoder les signes qui prouveraient l'existence des habitants d'une autre planète. Il pense que ce sont des êtres de lumière bleue, qu'ils sont graciles et agiles, super intelligents. Pourtant, Robert n'est pas un hurluberlu, mais son projecteur de cinéma mental fonctionne à fond. Il se fait un film vu uniquement de l'intérieur. Même si je m'amuse des élubrications de Robert, je ne l'ai jamais jugé. Ne sommes-nous pas tous les acteurs de films qui sont vus par nous-mêmes? Combien d'heures passons-nous à essayer de décoder des signes de quelque chose qui n'existe que dans notre tête? Un vieux copain à moi, fiscaliste, rationnel, super brillant, déboule à la maison l'autre soir. Je passais dans le coin, je ne dérange pas? Non, entre. En fait, je ne resterai pas longtemps, je voulais juste que tu me dises ce que tu penses du texto que Mylène m'a envoyé. Mylène est une fille qui aimerait bien séduire, et plus si affinité. Sur ce, il sort son téléphone et entreprend de me lire les quelques messages qui précèdent le texto fatidique que je dois défricher comme on décodait une missive en morse. Et le texto va comme suit. « Je suis dans le jus, je pense à toi. À bientôt, j'espère. » Mon ami est au bord de la crise de nerfs. « À bientôt, j'espère. » Tu penses que ça veut dire « Ciao, mon gars, on se croisera peut-être dans la rue un de ces jours » ou ça veut dire « J'ai hâte de te voir. » Quand elle dit « Je suis dans le jus », ça veut-tu dire « Décroche, mon gars, j'ai pas le temps pour toi ». Sérieux, moi je pense qu'elle a décidé que c'était terminé et qu'elle a pas vraiment envie de me revoir. J'ai lu 200 fois le texto et je pense que c'est ça. Que mon ami se mette à parler comme un adolescent de 14 ans n'est pas uniquement dû à des sentiments amoureux qui l'affectent ses moyens intellectuels. Car à travers cette tentative de donner un corps à une phrase banale comme « À bientôt, j'espère », il a sûrement un machinisme qui actionne la manivelle du cinéma mental. Nerveux, il attendait le verdict de l'oracle. La traduction. Mais j'ai juste ri aux larmes. Même si je suis moi-même l'organisatrice du Festival du cinéma mental des Amériques. Et je n'ai même pas besoin de Québécois pour me donner un coup de pouce. Ma programmation va de la comédie romantique au drame en passant par le suspense. En cette ère de communication numérique, les mots virtuels sont d'infinies sources d'inspiration pour ceux qui souffrent du syndrome de l'imagination débordante. La semaine dernière, alors que je n'avais pas une minute à moi, une copine m'écrit « Ça va ?» Je ne réponds pas, je n'ai pas le temps et je déteste répondre à ce genre de questions plutôt vagues en tapant sur un clavier. Le lendemain, nouveau texto. « T'es fâché ?» Un petit court-métrage dans sa tête, elle s'était imaginé que… Enfin. Si l'on fréquentait plus de petits magasins, qu'on prenait le temps de bavarder de vive voix, peut-être que l'on perdrait moins de temps à se faire des scénarios, à fréquenter un cinéma d'auteur inutile et souvent anxiogène. Dis donc, arrête de rire là, et dis-moi donc ce que tu veux, ce que tu en penses vraiment de ce texto de Mylène. Appelle-la, va la voir, invite-la à voir un film qui se déroule à l'extérieur de ton cerveau. Sur les entrefaites, le téléphone a sonné, c'était Mylène. Elle avait terminé plus tôt que prévu et se demandait si l'ami voulait prendre un verre. Et voilà, chronique d'Émilie Dubreuil. Alors, c'est la rentrée culturelle, et surtout sur les scènes québécoises, et bien sûr, beaucoup à Montréal, l'automne de toutes les scènes, c'est toujours la revue Voir qui nous propose quelques pièces qu'on doit aller voir. Dans les Incontournables, Valérie Thérien nous propose. Cet automne, le centre du théâtre d'aujourd'hui s'offre de grandes retrouvailles. Le personnage sensible de Bachir Lazare est de retour sur les planches 10 ans après la création de la pièce émouvante du même nom d'Évelyne de la Chenelière. Pour les spectateurs qui n'auront vu que l'adaptation cinématographique très remarquée de Philippe Falardeau, quelle belle occasion de faire connaissance avec Bachir Lazare sous sa forme originale. Dans la pièce, M. Lazare, Rabah Aïd Ouyaïa, un immigrant doit remplacer une enseignante qui s'est enlevée la vie dans une école primaire. Cette nouvelle mise en scène du directeur artistique Sylvain Bélanger sera présentée du 19 septembre au 14 octobre. Il y a aussi « À te regarder, ils s'habitueront ». C'est un grand rendez-vous théâtral autour de la réappropriation culturelle. 6 metteurs en scène. Il y a Nini Bélanger, Bachir Bansadek, Mélanie Demers, Dave Genis, Chloé Robichaud et Jean-Simon Traversy et 11 interprètes qui seront sur la scène issus de la diversité reviennent sur les grands textes de notre histoire, des poèmes de Miron au manifeste du FLQ. On a aussi les bons coups que Valérie Thérien nous rappelle dans Le Voir. Du côté de La Chapelle, les chorégraphes David Alberto et Émilie Gultieri de la compagnie Part and Labor Dance proposent une œuvre autour de la masculinité sous toutes ses facettes. La Vie attend est une création mettant en scène 5 danseurs présentées du 27 septembre au 7 octobre. Quand la pluie s'arrêtera, ouvre la saison chez Duceppe. Frédéric Blanchette met en scène ce texte de l'Australien Andrew Bovell du 6 septembre au 14 octobre. Naviguant entre l'Australie du futur, entre 2039 et Alice Springs, où il ne cesse de pleuvoir, et l'Angleterre du passé, la pièce traite des enjeux environnementaux et de ce qu'on lègue aux générations qui nous suivent.
Restez avec nous, l'émission se poursuit après la pause.
Vivent ce que j'évite. En tout cas, moi je vous souhaite une tabarouette de bonne journée. Quand tu fais ce que t'as à faire.
Seigneur et sa chanson Primitif.
Merci. Alors, nous revoilà au Voix de service magazine. Hélène Bédard au micro. Je vais poursuivre avec un texte, un grand texte qui vient de l'actualité Internet et est écrit par Jocelyn Coulon. Et c'est un grand texte qui a été fait le 6 septembre 2017. Je vais d'ailleurs vous le faire en plusieurs volets. Ça s'appelle « La grande colère du 21e siècle ». Les fruits de la modernité ont été confisqués par une minorité, ce qui a provoqué la colère de nombreuses catégories sociales sur la planète, soutient l'essayiste Pankaj Mishra. Voltaire et Rousseau en France, Thomas Jefferson aux États-Unis, le 18e siècle fut celui des Lumières. On y fit la promotion d'un monde libéré de Dieu et fondé sur l'individualisme, la raison, la liberté. C'est ce qu'on appelle la modernité. Depuis, les choses auraient plutôt mal tourné, affirme l'essayiste indien Pankaj Mishra. Nous serions même dans l'ère de la colère. Dans Age of Anger, l'auteur écrit que les fruits de la modernité ont été confisqués par une minorité, ce qui a provoqué la colère de nombreuses catégories sociales sur la planète. Son livre fait fureur dans le monde anglo-saxon et a soulevé beaucoup de critiques négatives, dont celle de l'ancien chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff. Donc, discussion avec un essayiste. Le monde n'a jamais été aussi prospère et interconnecté. Des milliards de personnes sont sorties de la pauvreté. Les femmes sont de plus en plus actives sur tous les plans, les minorités protégées. Et pourtant, vous décrivez une planète peuplée de gens en colère violents. Que se passe-t-il donc? Il répond. La vision du monde où les femmes ne sont pas en butte à la misogynie et les minorités à la discrimination est un fantasme. En ce qui concerne l'affirmation que des populations sortent de la pauvreté, elle présume que cet enrichissement est continu. Nos institutions politiques et socio-économiques ne peuvent pas répondre aux attentes grandissantes ou aux frustrations de populations aux prises avec l'actuelle régression. C'est pour cela que nous nous trouvons au beau milieu d'une ère de la colère, tant à l'est qu'à l'ouest, tant au nord qu'au sud. Question. Cette colère est récupérée au plus haut niveau. Donald Trump devient président après une campagne où il insulte tout le monde et provoque. Le premier ministre indien Narendra Modi fait appel à une rhétorique anti-musulmane pour gagner les élections. Le président philippin Rodrigo Duterte, dans sa lutte contre la délinquance, se vante de ses meurtres. Daesh diffuse ses exploits sanglants. Est-ce donc un phénomène ou une tendance lourde? Il répond. Les gens appuient ces parias ou ces leaders hors normes en raison d'une longue vie d'impuissance et d'humiliation. Ils sont remplis de rage et de ressentiment contre des élites politiques, financières et médiatiques qui sont insensibles à leurs peurs et à leurs préoccupations et seulement concernés par leurs propres intérêts. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a été le premier à tirer profit de la colère des gens qui, soumis aux effets de la thérapie de choc d'un capitalisme déréglementé, sont prêts à se jeter dans les bras d'un démagogue leur promettant de tout régler. Nous avons vu d'autres démagogues de ce genre émerger un peu partout sur la planète, offrant de fausses promesses de sécurité et de stabilité à des populations qui se sentent trompées. Vous affirmez que la philosophie des hommes du 18e siècle, comme Voltaire, Jefferson, Rousseau, porte en elle le ferment de cette colère mondiale. C'est que la modernité, en créant la liberté et l'égalité, a-t-elle enfanté le ressentiment? Et pourquoi? Il répond. Parce que la promesse d'égalité pour des populations émergeant d'un monde dominé par la religion, les coutumes et les traditions est souvent vécue comme une fausse promesse, et pas seulement dans les pays musulmans. J'essaie de démontrer la nature radicale et inédite d'une civilisation moderne, la nôtre, organisée autour de l'émancipation individuelle, de l'autorité traditionnelle par la science, le commerce et la raison. Ce nouveau monde promet l'égalité, mais en même temps, il enchaîne l'individu libéré aux forces invisibles du capitalisme et des marchés concurrentiels qui, en fin de compte, lui nient la liberté et l'égalité. D'où vient ce ressentiment? Ce ressentiment touche autant la classe moyenne française que les ouvriers blancs américains déclassés par les innovations technologiques ou que les paysans indiens déracinés et en quête d'emploi dans les villes. Ce ressentiment devient une épidémie mondiale lorsque de plus en plus de champs recherchent l'égalité et se retrouvent aux prises avec un monde dominé par l'inégalité où les fruits du progrès moderne sont confisqués par une minorité. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, on assiste à une première explosion de colère dans le monde occidental. Une impératrice, Élisabeth d'Autriche, un empereur, Alexandre II de Russie, des rois, des présidents sont assassinés, des intellectuels et des politiques incitent à la violence. Des bombes sont lancées dans les lieux publics. Y a-t-il des similarités avec notre époque actuelle? Il répond. La fin du 19e siècle ressemble beaucoup plus à notre époque que celle des années 30, constamment évoquée par les experts. Sans doute parce que les gens en connaissent plus sur Hitler que sur les démagogues antisémites et anti-immigrants de la fin du 19e siècle en Europe et aux États-Unis. Cette fin de siècle a vu la mondialisation décoller et les impérialismes se disputaient des territoires et des ressources dans le monde. De nombreuses personnes déracinées se sentaient inquiètes pour leur avenir. Les travailleurs étaient horriblement exploités. Les médias sombraient dans le sensationnalisme et des communautés d'immigrants produisaient des militants aigris qui versaient dans le terrorisme afin de surmonter l'émasculation dont ils se sentaient les victimes et pour menacer les puissants. La suite, la semaine prochaine. Alors, je rappelle la grande colère du 20e siècle. C'est vient de la revue Actualité version Internet et c'est écrit par Jocelyn Coulon, 6 septembre 2017. Maintenant, je laisse la parole à Catherine.
On retourne dans le voir de septembre 2017 avec un article sur l'artiste Mon doux Seigneur qu'on vous a fait entendre il y a quelques minutes à peine. L'article s'appelle Un peu d'air et c'est des propos recueillis par Olivier Boisvert-Magnène. Le Johannais d'origine a parfois la tête en l'air. Une semaine avant cet entretien, il nous a fait faux bond, alors qu'on l'attendait tranquillement à la Casa del Popolo. Et il y a un souci, Émeric est à cette île. Il a oublié qu'il y avait une entrevue, et je ne sais pas trop, il est parti à cette île. Il nous avait alors appris son attaché de presse, chez Grosse Boîte, prise un peu de cours elle aussi. Ouais, j'avais complètement oublié, admet le principal intéressé, avant d'y aller d'une explication abracadabrante. En m'en revenant du festif, c'est un festival de musique, j'ai décidé d'aller à Natashquan rejoindre des amis. L'affaire, c'est que j'étais rendue à Québec, donc il fallait que je revire de bord et que je fasse 12 heures de char. À Baie-Saint-Paul, le radiateur de mon char a sauté. Le festif était fini, donc en attendant que mon auto se fasse réparer, je suis allée voir une gang de jeunes qui s'en allaient au skatepark, fait que j'ai chillé avec eux autres un peu, puis je suis retournée me coucher en bas du pont où j'étais pendant le festival. Après ça, j'ai étiré mon séjour en passant par Kamouraska, voir des amis qui venaient de s'acheter une auberge. J'avais besoin de prendre un peu l'air avant le lancement de mon disque. Je sentais que c'était important. Esprit libre, s'il en est un, le Montréalais d'adoption aime se laisser guider par le flot de la vie, invoquant l'importance de la légèreté et de l'incertitude comme d'autres le feraient avec la rigueur et l'ambition. J'aime mieux douter de ce que je vais faire demain que d'avoir une vie monotone, résume-t-il. Derrière son apparat insouciant, Aymeric Saint-Cyr l'abbé laisse toutefois entrevoir les marques d'un drame omniprésent dans son œuvre. En trame de fond de son premier album, la mort de son père l'a profondément peiné. « On l'a vécu dur », confie-t-il en parlant au nom de sa famille. C'était un homme très généreux. En fait, ça lui demandait tellement d'énergie d'être là pour les autres qu'il ne lui en restait pas beaucoup pour lui. Du coup, il n'a jamais tenté d'imposer un tracé à ses enfants. Il nous a toujours fait confiance. Écrite à peine 36 heures après la tragédie, « Chaque matin », c'est le nom de la chanson, parle d'un ouvrier urbain qui perd le fil de sa vie à force de répéter aveuglément sa routine. « Il faut que tu roules ta bosse avant que la bosse te roule », chante l'auteur-compositeur-interprète de 26 ans. Cette chanson-là, elle est sortie à 8 heures le matin, une heure à laquelle je dors habituellement. J'étais démunie, j'avais plus rien à dire à personne. Il a fallu que je m'assoie, que je joue de la guitare. Chanter, c'était ça qui me faisait du bien, confie-t-il. Le soir même de sa mort, j'étais allée jouer de la guitare dans le parking du couche-tard près de chez mes parents. J'improvisais un jam, comme si je méditais. Mes doigts jouaient tout seuls sur ma guitare. Loin du récit larmoyant dans lequel il aurait facilement pu verser, cet album est traversé avec une tristesse vague, un certain spleen urbain ancré dans ce que l'auteur-compositeur-interprète appelle « L'île au calvaire » sur une chanson autobiographique à propos de Montréal. C'est l'histoire d'un gars de la Montérégie qui arrive en ville, qui veut prendre part à tout ce qui se passe et qui embarque dans le chalutier, peu importe c'est quoi la température sur la mer, imagine-t-il. À Montréal, le moment présent est dur à ressentir, car on est toujours dans le futur et dans l'after de l'after de l'after. Pour moi, des fois, c'est trop. Je dois reculer un peu et apprendre à vivre lentement, même si j'aime ça aller au bar et que j'ai tendance à me brûler en abusant des bonnes choses. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, le chanteur a pris racine dans la métropole il y a 4 ans. Désirant faire de sa guitare un médium de survie, l'artiste a performé ses compositions en jouant sur son balcon. « Je ne voulais pas avoir besoin de grand-chose ni de personne pour entamer ce projet-là. À la limite, un massothérapeute a à peu près la même démarche que moi, car il a juste besoin de ses mains pour faire son métier », analyse-t-il. Graduellement, la musique que je fais a décidé qu'elle avait besoin de plus d'instruments pour être à son plein potentiel. Le band s'est formé naturellement dans les 2 dernières années. Complété par le bassiste Étienne Dupré, le batteur Mandela Coupal, ainsi que les guitaristes David Marchand et Elliot Durocher, Mon Doux Seigneur est cette entité un peu vague qui dépasse le cadre du pseudonyme sans toutefois représenter un groupe à proprement dit. Concrètement, j'impliquerai personne dans la démarche du groupe car personne ne peut vraiment la comprendre. Même moi, c'est un peu nébuleux où je m'en vais, admet-il. Ce que je veux, c'est que le projet allume les gens dans leur propre cosmos, sans nécessairement avoir à associer ma face à ça. Bref, le chanteur aime l'idée de s'effacer derrière sa musique, préférant suivre son propre courant plutôt que de se conformer aux standards de l'industrie du spectacle. Durant les fentes couvertes, on lui avait d'ailleurs reproché de ne pas assez interagir avec la foule. « Je ne suis pas un animateur », clame celui qui a atteint la finale du concours en 2016. Si ne pas parler entre des chansons cause un malaise, ça veut peut-être dire que la musique n'est pas assez bonne. Et si on a envie que je me présente et que je dise d'où je viens avant une toune, on est peut-être aussi bien de faire un barbecue qu'un show. Mais peu à peu, le Montérégien se prête au jeu et accepte de faire des compromis. J'ai encore un peu de misère à fitter dans ce qu'on attend de moi. En entrevue, par exemple, on veut souvent obtenir une réponse de ma part, alors que je réponds en même temps que je pense, dit-il honnête. Au-delà de ça, j'ai pas trop de difficultés à faire des compromis, car je me nourris beaucoup de ce qui m'est suggéré. J'aime bander sur ce qui se passe, sur ce qui se présente, sans avoir à être collé sur un plan précis. Spontanément, j'ai tendance à dire oui à tout ce qu'il me propose. Une virée impromptue à cette île, par exemple. Voilà, portrait de Mon Doux Seigneur par Olivier Boisvert, Magnet, dans Le Voir. Thank you.
Nous revoilà, nous sommes de retour. Voilà, je vais poursuivre, Hélène Bédard au micro, je vais poursuivre avec un texte qui vient de ma revue Actualité version Internet, le volet culture et changer le monde. Je vais vous parler de Mme Anaïs Barbeau-Lavalette qui fait « Lettre à ma fille ». Pour savoir d'où tu viens et sur quoi tu pousses, tu vas chercher les modèles comme je les ai cherchés. Tu es encore toute petite. Tu fais pipi debout pour imiter tes frères. Un jour, tu vas comprendre que tu es une femme. C'est pour ce jour-là que je t'écris. Il y a peu de modèles. Pour savoir d'où tu viens et sur quoi tu pousses, tu vas les chercher comme je les ai cherchés. Mais tu seras déçue. Les femmes sont très peu présentes dans le récit de l'histoire. Il te faudra fouiller. Les sources jaillissent au regard qui les cherche, disait Michel Perrault dans Mon histoire des femmes. Les Anglais distinguent d'ailleurs les mots story et history. Ainsi, bien que les femmes fassent évidemment partie de l'histoire, elles manquent à son récit. D'abord parce que pendant des années, elles n'occupent pas de l'espace public. Elles sont invisibles et cette discrétion fait partie de l'ordre des choses. Leur présence en groupe terrifie, c'est la stasis chez les Grecs, c'est-à-dire le désordre. On en parle peu parce qu'on les voit peu. Aussi négligent-elles leur mémoire, détruisant leurs traces directes et écrites ou matérielles. Quel intérêt! Puisque Aristote, Rousseau, Schopenhauer et Auguste Comte, pour ne nommer que ceux-là, ont clamé ceci. La femme est inférieure à l'homme, incomplète, défectueuse. Elle est une menace à l'ordre social qu'on la garde entre les murs. Rousseau avait cité ceci. La femme se confond avec son sexe et se réduit à celui-ci, qui marque sa fonction dans la famille et sa place dans la société. Bien sûr, certaines sautent par-dessus les murs érigés ou les font exploser. J'ai lu leurs noms trop tard dans ma vie. Elles devraient être célébrées aussi, sinon plus puissamment que les Che Guevara, que les Danton ou les Gandhi de ce monde. Elles ont été les boucs émissaires de la modernité. J'en cite Olympe de Gouges, Flora Tristan, Georges Sand, Simone de Beauvoir, Louise Michel, Rigoberta Menchú, Angela Davis, Marie Curie, Amy Noether, Anne Smith Peck, Sojourner Truth, Simone Weil, Eliza Ann Greer, Rosa Luxembourg, Rosa Parks, Phyllis Wheatley et, plus près de nous, Jeanne Lapointe, Thérèse Casgrain, Jeanne Mance, Madeleine Parent, Léa Robach et tant d'autres encore que je t'invite à déposer dans ton imaginaire pour que tu t'y abreuves quotidiennement. Ces noms-là surgissent aujourd'hui, pépites d'or trop longtemps ensevelies. Ça ne fait que 30 ans qu'on s'intéresse à la présence des femmes dans l'histoire, dans leur ensemble et dans la durée. 30 ans, c'est si court. Tout reste donc à écrire. Il t'appartiendra de le faire à ta façon, en suivant ton chemin, en n'étant ni sage ni parfaite, ni comme on veut que tu sois, en assumant ton intelligence et ta puissance, en étant belle, quand tu en as envie seulement, et surtout en étant libre. Anaïs Barbeau-Lavalette a réalisé plusieurs documentaires, notamment « Si j'avais un chapeau »,« Les petits géants »,« Ma fille n'est pas à vendre » et de courts et longs métrages de fiction « The Ring » et « Inch'Allah ». A fait du théâtre documentaire scénique et a écrit le roman « La femme qui fuit » et « Je voudrais qu'on m'efface ». Son engagement par le truchement de son art lui a notamment valu le titre d'artiste pour la paix en 2012. Simplement pour vous citer que le texte que je viens de lire de Anaïs Barbeau-Lavalette était écrit par Paul Thibault le 15 septembre 2017 de la revue Actualité Internet. Maintenant, à vous Catherine.
Je vous présente un peu l'univers des jeux vidéo mis sur la lentille des arts visuels. C'est toujours dans le magazine Voir du mois de septembre. L'article s'appelle « Beauté ludique » et c'est de Antoine Bordelot. Pour le joueur moyen, il peut être parfois difficile de concevoir justement l'immense tâche qu'est le directeur artistique dans un jeu vidéo. Alors qu'on s'extasie devant les graphiques que de plus en plus époustouflants des consoles et des ordinateurs modernes, il est plus rare que l'on considère la genèse de ce qui défile devant nos yeux, c'est-à-dire la véritable naissance d'un environnement visuel réalisé par des illustrateurs, à l'imagination débordante. Raphaël Lacoste, directeur artistique senior sur la série Assassin's Creed, explique sa profession. Le métier évolue tout au long de la production d'un jeu. Comme directeur artistique, je suis le projet de la conceptualisation jusqu'à sa réalisation. Au départ, on définit un monde avec des illustrations avant qu'il soit modélisé et recréé en 3D. C'est avant tout un travail de création d'un genre de bible graphique avec laquelle on peut arriver, avant que les artistes 3D se mettent au boulot, devant le head's office et présenter l'univers visuel d'un jeu. Travaillant actuellement sur Assassin's Creed Origins, réalisé chez Ubisoft Montréal, dont l'action se situe au sein de l'Égypte antique, l'équipe de Lacoste s'est retrouvée devant un défi intéressant. Devant combiner un angle historique avec un autre très créatif, elle a eu à réimaginer une grande portion de la toile visuelle du monde qu'elle devait dépeindre. Comme il ne reste actuellement que très peu de références en Égypte de ce qu'on voulait créer, on a eu beaucoup de marge créative. Bien que l'on se soit basé sur des références historiques, on a laissé place à notre imagination en se basant sur ce qu'on voulait transmettre visuellement. Un monde très épique qui déclencherait des émotions chez le joueur en ayant des dimensions extrêmes dans des bâtiments, en jouant avec les contrastes. Tous ces moments visuels impressionnants que l'on vit en jouant, ça part toujours de choix artistiques que l'on montre en dessin avant tout. Un coup que c'est mis en 3D, je suis pour ma part garant de la qualité visuelle dans un jeu. Je dois m'assurer que tout ce qui a été imaginé est efficacement recréé dans un moteur de jeu. Alors que le travail à abattre est absolument massif dans ce contexte semi-historique, celui de créer un univers de toutes pièces comprend également des difficultés très marquées. Si l'on n'est pas entouré de la bonne équipe, il peut s'avérer très ardu de fabriquer un monde où le joueur aurait envie de passer des dizaines d'heures, de trouver un bon équilibre entre réalisme et imaginaire débridé. C'est beaucoup plus complexe à réaliser, mentionne Lacoste. Quand tu pars de rien, il faut que tu aies des personnages avec toi qui ont des visions très fortes. L'inspiration vient toujours de choses que l'on connaît, d'une culture générale. On peut puiser dans Blade Runner pour dessiner les premières planches d'un jeu de sci-fi, par exemple. Faut avoir une bonne culture visuelle. Il mentionne au passage que des gens de tous les milieux finissent dans son équipe, alors que certains ont étudié aux Beaux-Arts, et il y en a d'autres qui ont des diplômes scientifiques. Le profil de l'illustrateur en jeu vidéo est incroyablement varié. Si on a une vision claire et un coup de crayon solide, on a des chances. Ça prend surtout une imagination très développée. À travers ces nombreuses années passées à mener la barque visuelle de la marque Assassin's Creed, Raphaël Lacoste a également eu la chance de voir son métier évoluer grandement. Les contraintes techniques étaient très importantes sur les anciennes plateformes. Les artistes devaient volontairement modifier leur approche. Ça nous forçait à nous approcher plutôt d'un côté cartoon. On voulait faire de très beaux jeux et on le pouvait, mais les limitations des machines nous empêchaient d'aller dans le réalisme, qu'on écartait donc des choix créatifs. Ça nous menait des directions beaucoup plus graphiques, des ambiances plus fantastiques. De nos jours, les processeurs graphiques permettant des prouesses visuelles inouïes, c'est précisément aux directeurs artistiques de fixer les limites. Je pense que l'art vient toujours avec des contraintes. Si tu te dis que tu peux faire n'importe quoi, ce n'est pas non plus la bonne chose. Il faut que tu te forces à créer dans des lignes plus définies. C'est ta seule contrainte, c'est de donner dans le réalisme. C'est à mon sens beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y a pas de direction, pas de choix. Voilà. Quelques propos de Raphaël Lacoste dans Le Voir sur cet univers des jeux vidéo. Peut-être le saviez-vous déjà, mais Leonard Cohen sera au Musée d'art contemporain de Montréal. Et c'est un projet multidisciplinaire, ça s'appelle Une brèche en toutes choses. Pendant 123 jours, le Musée d'art contemporain de Montréal rendra hommage à l'auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen. L'exposition présentera des œuvres en art visuel et de réalité virtuelle, des installations, de l'écriture et une série de concerts et d'événements en marge de l'exposition. Cette dernière avait été initiée avant le décès de l'artiste en novembre 2016 et ça sera présenté du 9 novembre au 9 avril. Donc vous avez le temps encore de vous prévoir cette exposition à aller voir cet hiver.
Je vous remercie. Merci à Catherine, merci à Mathieu et merci à tous d'avoir été à l'écoute. On espère vous revoir la semaine prochaine. Bonne semaine.